La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous intéressons cette semaine au pan féminin de la littérature anglaise du 19e siècle. Avec d'abord George Eliot, à qui nous avons consacré les trois premiers épisodes de cette série. Lundi, c'était la biographie proposée par Stéphanie Richer-Drouet. Mardi, avec Alain Jumeau, nous avons parcouru les grands thèmes de son œuvre. Ce que nous avons également continué de faire mercredi, mais avec Georges Letissier, qui nous a parlé de divers sujets comme de la place de la science ou du rapport aux animaux dans l'œuvre de l'écrivaine, en insistant en particulier sur son grand roman Middlemarch. Toutes ces émissions sont bien entendu à télécharger à volonté. L'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, nous avions souhaité consacrer 4 épisodes à des écrivaines et artistes cachés par des hommes célèbres, qu'ils soient leurs frères, leurs amants ou leurs conjoints. Et nous n'avions pas pu à l'époque terminer ce panorama par une émission sur Mary Shelley, la maman de Frankenstein, dont les rapports avec son mari, le poète Percy Shelley, méritent pourtant qu'on s'y arrête. Et bien c'est ce que nous allons faire justement aujourd'hui. Frankenstein se réveille, ça peut être un peu effrayant. En filigrane aussi de notre émission du jour, il y aura la question de savoir si être un Pygmalion, c'est abuser de son pouvoir, ou si au contraire c'est faire le marchepied à quelqu'un et l'aider. Eh bien cette question, nous allons la poser à Olivier Larizza, avec qui nous sommes en duplex depuis Strasbourg. Bonjour à vous Olivier Larizza.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup.
Et bonjour à vos auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur de langue et littérature anglaise à l'université de Toulon et auteur d'essais et de poèmes, comme par exemple les poèmes du recueil L'Entre-deux chez Andersen Plus. Mais vous êtes aussi l'auteur du texte Mary Shelley dans la main de son mari, point d'interrogation, l'ombre de Percy Shelley sur Frankenstein. Dans le recueil dont on a donc parlé l'an dernier, Femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes, paru en septembre 2019 chez Classique Garnier. On attend aussi la parution de votre prochain livre intitulé « Le Rhin à la source de Frankenstein », c'est toujours aux éditions Andersen. Alors ce livre, évidemment, « Le Rhin à la source de Frankenstein », il est en lien avec notre sujet du jour. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu pour commencer, parce que on le sait peu, mais Frankenstein a quelques origines françaises.
Oui, on le sait, françaises, germaniques. Écoutez bien, Frankenstein. Vous voyez, ces trois syllabes, comme elles sonnent, magistrales, inquiétantes. Elles sont chargées d'inquiétante étrangeté, das unheimlich, freudien. Et nous sommes habitués, bien sûr, nous avons entendu ce nom des milliers de fois. Nous sommes des citoyens du monde, on vit dans un espace globalisé. Mais imaginez, pour un anglophone du début du 19e siècle, comme ce nom dérangeait, surprenait. C'est une pépite noire. Et... il est très étonnant que la critique ne se soit pas interrogée sur la germanité de ce qui fonde ce roman hors norme. Et donc effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis retourné à la source, dans les deux sens du terme.
C'est pour ça que vous étiez à Strasbourg et que vous y êtes souvent. Alors, et que vous y êtes encore aujourd'hui?
Pas aujourd'hui, j'y suis pour d'autres raisons, mais effectivement, j'ai un attachement particulier à Strasbourg, où j'ai un appartement, mais effectivement, oui, de Strasbourg, c'est l'un des centres névralgiques qui a constitué la naissance, qui a participé à la naissance du concept de l'œuvre, à la fin août, début septembre 1814, lorsqu'une Mary Shelley, qui s'appelait encore Mary Godwin, jeune adolescente de pas encore 17 ans, fugue avec son amant, qui est un poète, rebelle, iconoclaste, marié, père de famille, vous imaginez Le scandale et la rupture que ça représente par rapport au code de la société de l'époque fugue donc en Europe. Le poète, le 28 juillet 1814, dépêche un phaéton dans le 41 Skinner Street, 41, de cette rue où elle vit avec son père, sa mère étant décédée à sa naissance. Et à 4h du matin, il la ravit à son père vieux jeu et à sa belle-mère, avec qui d'ailleurs elle ne s'entendait pas du tout, une marâtre, pour l'emmener sur le continent et vivre cet amour transgressif contre vents et marées, j'allais dire, et aussi parfaire leur connaissance d'eux-mêmes et du monde. Et ils partent. Ils emportent au passage la sœur cadette, qui s'appelle Claire, enfin qui se fait appeler Claire, elle s'appelle Jane en réalité. Claire Clermont, c'est sa demi-sœur cadette, puisque le papa s'est remarié. Et ils partent aussi dans l'idée, avec l'idée, chevillée au corps, de faire une œuvre. Ils s'essaieront tous les trois, lors de ce périple à la création romanesque, un périple qui durera 6 semaines, et pendant lesquelles, à la fin août, à partir du 27-28 août, ils s'embarquent sur le Rhin, pour une douzaine de jours, à Lucerne, en Suisse.
C'est sur ce voyage en particulier que vous insistez dans votre livre, Olivier Larizza, sur ce voyage sur le Rhin?
Oui, parce que si vous voulez, quelle est l'image d'Épinal de la création de Frankenstein? C'est la thèse établie, si vous voulez, qui d'ailleurs existe depuis que Mary Shelley elle-même l'a proférée dans une longue introduction qu'elle annexe à la 3e édition parue de son vivant du livre. Je rappelle que Frankenstein paraît pour la première fois en janvier 1818. Elle n'a pas 19 ans. Elle n'a pas 20 ans en tout cas. 2e édition 1823. 3e édition définitive. Deux qui paraît de son vivant, 1831, et qu'elle remanie d'ailleurs profondément, on pourra peut-être en reparler. Mmh. Et dans cette édition, elle répond à une question qu'on lui pose souvent, et que ses éditeurs, notamment, à laquelle ses éditeurs aimeraient qu'elle réponde, c'est, je cite, « Comment moi, alors jeune fille, en vins-je à concevoir et à développer une idée aussi hideuse ?» Et elle donne donc les clés, du moins, semble-t-il. Et ce qui est très curieux, c'est que nous avons pris ce qu'elle proclame dans cette préface pour argent comptant. Nous la croyons comme parole d'évangile. Alors qu'en réalité, déjà, il y a un certain nombre d'incohérences et surtout, elle omet une grande partie de la réalité. Et notamment, ce périple sur le Rhin qui a été fondateur. C'était plus qu'un voyage initiatique, ça a été une matrice qui a permis de susciter l'étincelle d'existence. Hein, vous savez, the spark of being. Vous savez, quand le savant omnubilé par son idée fixe, transmet la vie à sa créature, il parle de spark of being. Mm-hmm. Eh bien, c'est cette étincelle qui est une étincelle liquide, elle la trouve là, sur le Rhin. Et on a longtemps cru, effectivement, que, vous connaissez l'image d'Épinal, elle est archi connue, c'est à l'été 1816, sur les bords du lac Léman, que tout s'est déclenché. Lord Byron, le légendaire Lord Byron, dont la réputation d'ailleurs en Angleterre était brisée, louait une villa sur les hauteurs de Genève. Et un soir d'orage, il a lancé un défi à ses hôtes, écrire une bonne histoire de fantôme. Après des nuits d'angoisse de la page blanche, la jeune Mary, 18 ans et demi, qui faisait partie des quatre convives, a fait un rêve éveillé où elle visualise le savant et son monstre.
Ou un
c'est
cauchemar,
ainsi qu'elle accouche du scénario. Oui, une sorte de, ce qu'on appelle plus exactement la physiopsychologie baptisera en 1848 une hallucination hypnagogique, c'est-à-dire ce qui survient entre la phase d'endormissement, entre la phase d'éveil et d'endormissement, où les facultés sont comme exacerbées et où il arrive effectivement qu'on puisse avoir comme ça des illuminations. Et elle a fondé toute son histoire, au fond, son mythe, son récit des origines, sur cette prétendue illumination qui aurait ensuite déclenché tout le processus créatif. Eh bien moi, j'ai tout repris à la base, j'ai repris une enquête à la fois, une plongée abyssale dans les archives, et aussi une enquête de terrain, on parlait de Strasbourg notamment, mais je suis allé en Allemagne, à Mannheim, à Mayence, j'ai refait le périple, en partie refait le périple qu'elle avait fait, donc elle, à la fin août, début septembre 1814, pour effectivement découvrir que c'est sur le Rhin qu'est né le concept de l'œuvre. Et vous parliez, je suis peut-être trop long,
on continue, c'est passionnant.
D'accord. Vous parliez de Strasbourg. Alors, pour faire aussi plaisir peut-être à vos confrères de France Bleu Alsace et puis à vos auditeurs.
Qu'on salue d'ailleurs et qu'on remercie de vous accueillir.
Oui. Est-ce que vous connaissez le Frankenstein?
Le Frankenstein.
Le Frankenstein.
Je ne sais pas.
Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Est-ce que c'est la nouvelle de ce Français qui a écrit avant Mary Shelley une nouvelle qui ressemble à Frankenstein, ou est-ce que ça n'a
vous
rien à voir?
Vous parlez de Félix Nogaret.
Exactement.
Peut-être. Non. On pourra revenir sur Félix Nogaret. C'était un roman d'ailleurs. Non, le Frankenstein, c'est beaucoup plus intellectuel que ça, puisqu'il s'agit d'un vin blanc. Un vin blanc assez renommé, à la réputation d'ailleurs mondiale, et qui avait déjà une réputation mondiale, là je fais plus une anecdote, hein, qui avait déjà une réputation mondiale depuis le 15e siècle, qui est cultivé dans l'évêché de Strasbourg. Et si vous vous souvenez, il y a un passage dans Frankenstein où Victor se rend en Angleterre. Pourquoi il se rend en Angleterre? Parce que il a promis à la créature de lui fabriquer une compagne. Et c'est à contre-cœur, donc, qu'il décide de se mettre à exécution. Et pour se rendre en Angleterre, il emprunte le Rhin. Il fait peu ou prou le même voyage que sa conceptrice, Mary Shelley, à l'été 1814. Sauf que lui part de Strasbourg. Elle était partie de Lucerne. Et il remonte comme ça jusqu'à Londres, évidemment, via la mer du Nord. À Rotterdam, il embarque pour Londres. Et au cours de ce voyage, il entend, il voit les chants des vendangeurs, les vendanges. Et c'est exactement ce qu'aperçut elle-même Mary, puisque lorsqu'il descendait le cours du Rhin, et qu'ils allaient justement vers Strasbourg, elle entendait, elle, Percy et Claire, bien sûr, les chants des vendangeurs. Et notamment dans les environs de Dambach-la-Ville, où on vinifie le Frankenstein. Et au moment même où elle entend, si vous voulez, le Frankenstein se surgit dans sa réalité. Par ailleurs, elle indique dans History of a Six Weeks Tour, et dans le journal d'ailleurs qu'elle tient, puisqu'ils tiennent ensemble un journal de bord avec Percy. Elle indique qu'elle entend effectivement, qu'elle voit les vendanges. Et bien, à ce moment-là, elle raconte aussi qu'elle est en compagnie de trois étudiants strasbourgeois de l'université de Strasbourg, dont un certain Hoff, H-O-2-F, qu'elle qualifie d'animal. Elle dit qu'il a une tête informe. Et elle l'assimile à une sorte de monstre. Et donc vous voyez qu'au moment où voilà, il y a une sorte de télescopage des événements, alors là on est un peu plus dans l'anecdotique, mais voilà, je pourrais vous donner 1000 exemples en réalité où les consonances de ce nom hors norme, finalement, elle les croise à de multiples reprises autour de ce périple rhénan, et surtout, c'est ce périple rhénan qui explique la germanité profonde du livre.
Mais alors, levons peut-être quand même l'hypothèque de ce Français, oui, Félix Nogaret, qui avait donc écrit ce roman, donc, et non pas cette nouvelle, Le miroir des événements actuels ou La belle au plus offrant, 1790, oui, donc pas mal avant Mary Shelley, et son personnage a un nom qui ressemble aussi à Frankenstein.
Oui, 1790, effectivement, alors, si je me souviens bien, je voudrais pas écorcher ce nom. Et d'ailleurs, il est dit dans le livre que ce nom écorche les oreilles. Vok Vic von Vaucanson Frankenstein, quelque chose de ce genre-là. Ouais. Mmh. Effectivement, ça se termine par Frankenstein avec plusieurs trémas. Et on entend aussi Vaucanson, Vok Vic Vaucanson Frankenstein. Vaucanson qui est une allusion, bien sûr, à l'ingénieur français Vaucanson, qui concevait des automates. Et une autre résonance d'ailleurs, c'est que effectivement Nogaret assimile son concepteur, son ingénieur, à un Prométhée. Mm-hmm. À Prométhée.
Est-ce que Mary Shelley a lu selon vous ce texte?
Alors, c'est une thèse qui me semble pertinente, qui m'intéresse, mais elle n'est pas vérifiée à ce jour. L'ouvrage se trouvait dans les librairies françaises lorsque les Shelley effectivement sont arrivés en France le 2 août 1814. Ils sont arrivés à Paris, donc lors de cette escapade, de cette chevauchée fantastique, le livre se trouvait, mais on n'a aucune preuve qu'ils l'ont effectivement eu en main. Or, ils tenaient des scrupuleuses reading lists, des listes de lecture très fournies. Je vous donne juste un chiffre qui est quand même significatif. Pour la seule année 1814, j'ai répertorié que Mary Shelley avait lu 122 ouvrages. Hein, ça représente donc à peu près 2 livres par semaine. C'était des gens très cultivés, férus de lecture, ouverts, gourmands de culture. Mais on n'a aucune preuve effectivement qu'ils aient eu cet ouvrage en main. Mais de toute façon, si jamais ils l'avaient eu en main, ça apporterait de l'eau à notre moulin rhénan, puisque ça, effectivement, ça situerait la trouvaille patronymique Frankenstein, ça la situerait là aussi en 1814.
Ça, on ne le dit pas assez. Si Shelley est devenu un poète connu, c'est grâce à sa femme. Il meurt jeune et il faudra un travail d'édition considérable mené par son épouse dans des circonstances difficiles parce qu'il y avait le père de Shelley qui continuait à tenir les cordons de la bourse et qui lui interdisait au moment même où elle mettait sur le papier toutes les œuvres de son mari auxquelles elle avait un accès direct, qui lui interdisait formellement de parler de lui et d'écrire une biographie de Shelley. Elle a quand même réussi à contourner cet interdit-là par le biais notamment des notes qu'elle a pu rédiger pour tel ou tel de ses poèmes. Mais il est clair que s'il n'y avait pas eu ce travail d'édition, de mise à jour, de mise honnête des œuvres de Shelley, Shelley, pendant la plus grande partie du 19e et la première moitié du 20e siècle, aurait finalement été assez peu connu.
Compagnie des œuvres sur France Culture avec à l'instant le spécialiste du roman gothique Alain Morvan, interrogé par Romain de Becdelièvre, qui nous permet d'introduire la question centrale de cette émission, qui est la question des rapports entre Mary Shelley et son mari, Marie Percy Shelley. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec Alain Morvan, Olivier Laritza, pour dire que si Percy, le poète, est connu, c'est grâce à sa femme Mary?
J'ai aussitôt reconnu effectivement la voix d'Alain Morvan. Reconnu. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je le nuancerai. C'est pas une question de célébrité. Je pense que c'est plus une question de rayonnement, de reconnaissance et surtout de respectabilité. C'est vrai qu'elle a fait, elle a effectué un travail. Alors c'est en 1839 que sont parus les Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley. Annoté, mis sur pied, annoté avec des très belles notices, c'est vrai, de Mary Shelley, dont l'objectif était effectivement de, d'installer la légende Percy Shelley. Parce que c'est ça le, je dirais pas un reproche, mais c'est ça la nuance que j'apporte, c'est que ces notices qui sont très belles, qui sont très bien écrites, elles sont quand même lacunaires et comme souvent, Mary Shelley pêche par omission parce que son objectif, ce n'est pas de livrer une version de Percy Shelley telle qu'il existait, c'était de livrer une version de Percy Shelley telle qu'elle l'idéalisait et telle qu'elle souhaitait qu'il passe à la postérité.
En fait, l'un et l'autre vont comme ça avoir une influence très importante sur la carrière de l'un ou de l'autre. Et c'est donc à la fois le cas de Mary sur Percy, mais c'est surtout le cas de Percy sur Mary. Il faut rappeler que c'est des gens extrêmement jeunes. Vous l'avez dit, ils ont 18 ans à peine. Enfin, ils écrivent des chefs-d'œuvre alors que ce sont des gens qui sortent à peine de l'adolescence. Et donc il y a évidemment des influences qui sont très très importantes entre l'un et l'autre. Est-ce que vous avez l'impression que Mary Shelley a été d'une quelconque manière dépossédée de son chef-d'œuvre Frankenstein par son mari? C'est un petit peu la question que vous posez dans l'article. Qui a écrit finalement Frankenstein?
Alors justement, pour continuer ma réponse précédente, j'étais un petit peu frustré de ne pas aller jusqu'au bout. Mais dans ce travail d'édition fondamental qu'elle a effectué et publié en 1839, c'était une façon aussi, comment dirais-je, d'abattre, de manifester son emprise sur les œuvres de son mari. Moi, je l'interprète comme ça, précisément parce que tout au long de leur compagnonnage amoureux et littéraire, c'était à la fois une symbiose, une osmose et une rivalité. Je donne juste un exemple sur les œuvres complètes de Percy Shelley, parce que j'aime bien peut-être donner quelques exemples plus concrets. Quand on trouve un poème qui était adressé à une autre femme qu'elle, avec une dédicace à cette femme, Mary Shelley le supprime. Ce poème. Lorsqu'en 1847, par exemple, elle entend qu'une biographie non autorisée de Percy Shelley se prépare, elle s'interpose, elle fait tout pour empêcher sa parution. Elle ne voudrait surtout pas que la vérité de ce qu'il était et de ce qu'elle était, de leur relation, éclate au grand jour.
Pourquoi c'est si scandaleux?
Absolument, ça générerait un scandale. N'oublions pas qu'en 1814, elle batifolait sur le Rhin avec un homme marié, père de famille. Elle s'est retrouvée enceinte de cet homme marié. Puis elle revient à Londres, dans la Regency, la société anglaise très corsetée de l'époque. Effectivement. Alors, vous parliez de dépossession. Ce que je vous disais, c'est que c'est oui et non. Hein, et je peux pas en 3 secondes comme ça faire une réponse satisfaisante. Sans doute qu'on approfondira au cours de l'émission. Mais ce qui me semble crucial pour terminer peut-être avec cette histoire d'édition des œuvres posthumes de Percy Shelley, c'est de bien comprendre le travail d'idéalisation qu'elle effectue. Percy était déjà connu quand ils se sont rencontrés, c'était une étoile montante de la littérature. Malgré sa jeunesse, il était contesté, il était controversé, il avait des difficultés à publier ses poèmes, il les publiait très souvent à ses frais, comme par exemple la Reine Mab, Queen Mab, a été publiée à compte d'auteur. Et compte tenu aussi de la très très haute, de sa mégalomanie, disons le mot, de sa très haute opinion de lui-même, il considérait que tout retour, toute reconnaissance, de toute façon, ne lui arrivait pas à la cheville, était insuffisante. André Mauroy a écrit une très belle biographie, parue en 1923, et il parle d'un orgueil infernal de Percy Shelley. Et je crois que c'est très juste. C'est quelqu'un qui se comparait à un phare qui domine la mer agitée.
Et d'ailleurs, si vous me permettez, on peut au passage faire un petit portrait de Percy Shelley, expliquer qu'en effet, il est extrêmement brillant, mais qu'il a eu peut-être des difficultés quand il était jeune. Il était renvoyé d'Oxford, il écrit, mais enfin, il rencontre un succès un petit peu mitigé. Finalement, quel est ce que vous avez déjà d'ailleurs commencé à faire, quelle est la personnalité un petit peu de Percy Shelley et comment cette personnalité va-t-elle venir faire peut-être un peu d'ombre ou en tout cas impressionner beaucoup Mary Shelley?
Je pense que c'était un être foncièrement anxiogène. Mauroy, dont je parlais à cette formule concernant leur relation avec Mary, il disait « l'amour et le malheur faisaient bon ménage ». Je trouve que c'est assez juste. Et effectivement, il faut comprendre que la petite Mary, et je dis la petite Mary sans aucune condescendance, elle-même, vous savez, quand elle revient sur l'épisode de la Villa Diodati, où elle est quand même déjà maman à ce moment-là. Elle a été mère 2 fois, le premier enfant, une prématurée, est morte 10 jours après sa naissance, et au mois de janvier 1816, elle accouche d'un William, d'un petit garçon qu'elle prénomme William. Là aussi, c'est un prénom très chargé de symboles, parce que c'est le prénom de son père, c'est le prénom du frère, du petit frère de Frankenstein qui se fait assassiner dans le roman. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc, elle est déjà maman à ce moment-là. Et pourtant, lorsqu'elle revient sur cet épisode de la Villa Diodati, en 1840, elle fait un pèlerinage là-bas et elle dit « C'est pour la première fois, je mettais un pied dans la vie et hors de l'enfance. » En 1816, elle se considérait encore comme une enfant, et par ailleurs, vous l'avez dit, elle l'était à bien des égards. Donc quand je dis la petite Mary, voilà, il faut surtout pas voir de la condescendance dans mon propos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà une jeune femme qui naît et qui grandit qui devient adulte dans ce que j'appelle une quasi-sainte trinité. Elle est élevée dans l'ombre de sa mère. Elle est the shade of my mother. Par sa naissance, elle a tué sa mère.
Sa mère est morte en fièvre.
Voilà, Mary Wollstonecraft, qui est une grande féministe, la pionnière, on va dire plutôt, la pionnière du féminisme.
C'est une famille d'intellectuels, parce que la mère comme le père sont des intellectuels.
C'est une famille d'intellectuels, elle meurt en couche à l'âge de 38 ans d'une fièvre puerpérale. Et on souligne l'importance de l'hygiène, parce que lorsqu'on aura compris à quel point il est important de se laver les mains, tout simplement, et on aura réduit. Là, nous sommes donc en 1797. Au début du XIXe siècle, fur et à mesure qu'on aura compris l'importance de l'hygiène, on réduira considérablement la mortalité en couche et aussi la mortalité infantile. Donc, lavons-nous les mains. Voilà. Voilà, c'est une petite allusion peut-être pas bienvenue par rapport à la situation actuelle.
Je comprends tout à D'accord. fait. D'accord. Oui.
Donc, simplement, voilà, je trêve de plaisanterie. Lorsque Mary grandit dans l'idolâtrie de sa mère. Et son père, d'ailleurs, qui lui fait une partie de son éducation, il l'enlivre, hein, si je puis me permettre ce néologisme, c'est une éducation qui est faite par les livres. Elle grandit donc dans l'idolâtrie de sa mère. Et en même temps, elle, toute sa vie, elle vivra avec ce fantôme au-dessus d'elle. Ce fantôme qui à la fois la stimule, mais qui en même temps, à certains égards, lui fait de l'ombre. Encore une fois, elle dit « J'ai été élevée dans l'ombre de ma mère, in the shade of my mother ». Mais elle grandit aussi, je suis un peu long, elle grandit aussi sous le poids écrasant de son père, un homme taciturne, aux manières réservées, incapable de paroles intimes, qui pourtant évidemment aime sa fille mais ne peut lui manifester, et qui est une célébrité. Effectivement, son essai Political Justice a fait florès, et il a des disciples partout en Angleterre, il a aussi évidemment des pourfendeurs. Et parmi ses disciples, on a le gendre, enfin le futur gendre et l'amant, Percy Shelley. Et Mary dit « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à sujet de mon père ?» écrit-elle dans une lettre à une amie. « Jusqu'à ce que je fisse la connaissance de Shelley, je peux seulement dire qu'il a été mon Dieu. »
Il y a un parallèle à construire entre la vie de Mary Shelley et celle de sa mère. L'une comme l'autre se trouve face au même hiatus qui oppose la passion, le sentiment personnel auquel on ne peut pas résister, et puis une idéologie. Il se trouve que Mary Wollstonecraft, la mère de Mary Shelley, a fini par épouser le père, William Godwin, qui était un philosophe anarchiste, alors qu'elle-même était une sorte de pionnière de ce qu'on appellera plus tard le féminisme. Et ces deux personnes qui exécraient l'idée même de mariage se sont mis à l'accepter et à se marier du jour où Mary Wollstonecraft s'est retrouvée enceinte. Donc l'exigence personnelle, l'exigence biographique ne peut rien contre l'idéologie. Et c'est un peu ce qui se passe dans le cas de Mary Shelley, où l'on voit justement comment le parti pris en faveur de l'amour libre que l'on fait, comment dirais-je, porté par Shelley, son compagnon, se heurte à quelque chose de très profond en elle, qui est pourtant très nourri de pensées anarchisantes. Et ce quelque chose de très profond, c'est tout simplement un amour, et un amour qu'elle voudrait sans partage vis-à-vis de Shelley. Donc, cette idée de ménage à trois, ou à quatre, ou à cinq, est quelque chose qui, quelle que soit son idéologie de départ, lui est difficilement supportable. Et ça, cette tension fondamentale explique peut-être un certain nombre de choses qui se produisent dans son livre.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Donc, je voudrais revenir alors avec vous, Olivier.
Ah, c'est agréable d'être coupé par Alain Morvan.
C'est vrai que c'est
vous en prie.
Plutôt un privilège. Je voudrais qu'on revienne sur la question du Pygmalion, parce que c'est quand même ça qu'on doit aborder aujourd'hui. C'est la question de qui a fait quoi, au fond, dans Frankenstein. Il y a plusieurs phases, vous l'expliquez très bien dans votre article. Une phase où c'est d'abord Mary Shelley qui écrit, puis une phase où ils écrivent ensemble avec Percy, puis une phase où Percy cherche un éditeur, et puis après une phase de correction sur les épreuves. Dans quelle mesure a-t-elle été finalement un petit peu sous la coupe de son mari, ou dans quelle mesure finalement son mari l'a au contraire aidé à accoucher de ce roman quand même très extraordinaire? Quel est votre avis, Olivier Larisa?
Alors, professionnellement, si on peut parler comme ça, si vous voulez, c'est grâce à Percy Shelley qu'elle quitte l'écriture sous forme de jardin secret, où elle écrivait pour elle-même. Elle a toujours écrit, aussi longtemps qu'elle se souvienne, raconte-t-elle en 1831, elle écrivait enfant, des historiettes, mais elle ne se sentait pas nécessairement l'héroïne de ces histoires. Et lorsqu'il s'échappe pour la France, pour le continent, en 1814, elle emporte avec elle une boîte dans laquelle elle a archivé des lettres de Percy justement, mais aussi de son père, de Harriet, qui est la femme de Percy, et des histoires, toutes ces histoires qu'elle a accumulées au fil des ans. Et à l'hôtel de Vienne, où il loge, qui est un hôtel bas de gamme et qui n'existe plus aujourd'hui, elle promet à Percy de lui laisser voir un jour le contenu de cette boîte, mais finalement elle l'oublie, cette boîte, lorsqu'il quitte l'hôtel et Paris. elle l'oublie. Et alors, est-ce un acte manqué? Est-ce un acte volontaire ou inconsciemment volontaire, si je puis dire? Ou finalement, elle a compris que grâce à Percy Shelley, quelque chose était en train de se passer et qu'il fallait faire table rase, justement, de la façon dont elle envisageait l'écriture auparavant, que cette écriture qui était confinée au jardin secret s'était terminée, que maintenant elle entrait dans une nouvelle phase grâce à celui qui remplaçait son père de fait, puisqu'elle était en froid avec son père, puisqu'elle l'avait quitté, et qui allait devenir son nouveau guide, son mentor. Et donc c'est grâce à Shelley que effectivement s'opère ce déclic. Shelley agit, si vous voulez, un peu comme un starter.
Donc ça vous semble plutôt positif comme rôle, là, en l'occurrence?
Au début, oui, bien sûr. En fait, tout s'amalgame en même temps. J'ai pas eu le temps de terminer mon premier développement tout à l'heure, parce que effectivement, je suis trop long et vous avez sans doute raison de m'interrompre. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que ce jeune amant devient lui aussi une figure tutélaire. Il devient lui aussi une sorte de dieu pour elle. Elle le met sur un piédestal. Et donc, à la fois, elle progresse grâce à ses conseils, grâce à son encouragement. Elle dit, je cite, « Il m'exhortait à cultiver au maximum les talents que je possédais. » Mais parce qu'il a aussi une exigence trop haute, parce que aussi il la pousse, j'allais dire au quotidien, il la pousse dans ses retranchements, ça la paralyse. Comme son père d'ailleurs, l'a paralysé dans ses élans créatifs. Et donc vous avez ce double mouvement qui intervient et qui en réalité va se retrouver... mis en abîme, et c'est ça, je pense, son grand coup de maître, enfin, l'un de ses coups de maître à Mary Shelley, au-delà de la vision, évidemment, qu'elle a eue, de le fait que ce roman soit complètement visionnaire et qu'il modernise le roman gothique, mais qu'il le ringardise. Au-delà de ça, c'est qu'elle met en abîme, c'est-à-dire, elle métaphorise, si vous voulez, par son écriture, cette relation de, non pas attraction-répulsion, non pas je t'aime moi non plus, parce qu'évidemment, ils s'adoraient, mais d'autorité, de soumission à l'autorité de Percy Shelley et de rébellion contre cette autorité, parce qu'il s'agit aussi pour elle de devenir femme. Il s'agit aussi pour elle de devenir une auteure, une autrice, je préfère dire autrice. Elle veut devenir une autrice. Elle a ce désir qui est chevillé au corps, qui lui a bien sûr été inculqué dès son plus jeune âge, mais elle a ce désir-là. Et comment devenir femme auteur ou auteur femme, vous savez, les Anglais ont un mot, c'est authoress, qui d'ailleurs existait en français au 19e siècle. Les lettrés avaient forgé un néologisme que j'aime beaucoup. Moi, c'est autoress, sur le modèle d'ailleurs de doctoresse ou d'enchanteresse. On devrait peut-être le réhabiliter. Comment devenir une auteuresse sous le poids écrasant de ces trois figures, j'allais dire tutélaires? Le père est une figure totémique. Et le jeune amant, qui est une figure tutélaire, s'intronise petit à petit, figure totémique à son tour. Donc elle doit aussi se révolter contre lui.
Eh bien, alors c'est justement une question qu'on pourra évoquer en seconde partie de cette émission, parce qu'il est l'heure de demander à présent à Marc Poré s'il peut nous parler, non pas de Mary Shelley, mais comme on va le voir, de George Eliot.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et oui, parce que chaque jeudi, vous le savez, on propose ici une carte blanche à un grand lecteur qui vient livrer son point de vue sur un thème en lien avec notre semaine. On vous accueille donc aujourd'hui avec grand plaisir. Bonjour Marc Poré.
Bonjour, oui.
Professeur de littérature anglaise à l'École Normale Supérieure. Et vous venez donc nous parler de George Eliot, qui était le thème de ces trois derniers jours de notre semaine. Peut-être un mot d'abord sur Mary Shelley, une réaction à ce qui a été dit par Olivier Larizza.
Mais je trouve ça tout à fait passionnant. C'est-à-dire qu'on se demande toujours ce que signifie la recherche en sciences humaines. La recherche en sciences, on voit à peu près. Mais la recherche en littérature, c'est quoi? On voit peu, parfois on ne voit pas du tout. Eh bien, cette histoire du Rhin, découverte par Olivier Larizza, ça fait avancer la recherche, ça renouvelle le propos, ça permet de déplacer la scène suisse, et ça rompt quelque part avec l'image d'Épinal. Alors bien sûr, il n'y a rien d'anecdotique là-dedans, et en même temps, ça relève d'un processus que l'on connaît bien, qui s'appelle la Quellenforschung, c'est-à-dire la quête des sources, littéralement. Mais je noterai pour ma part que la recherche, c'est aussi l'interprétation à la lumière, justement de théories souvent postérieures à l'œuvre. C'est le cas par exemple des gender studies, des études féministes. Et puis c'est aussi, hein, pour nous ramener du côté de Mary Shelley, c'est aussi toujours en fonction d'une actualité survenue entre-temps. Par exemple, dans le cas de Mary Shelley, qui n'est pas que la femme d'un seul livre, hein, elle est aussi l'auteur d'un roman, pandémique, intitulé « The Last Man », le dernier homme, 1826. Un roman tout à fait d'actualité, et qui a trouvé déjà dans les années 1990, une seconde actualité avec l'épidémie du sida. Et donc, à la faveur de cette première épidémie, à la faveur de la seconde, celle qui nous touche avec la coronavirus ou Covid, eh bien, les romans sortent de l'ombre. Ils trouvent une nouvelle orientation. Voilà. Mais mon propos était tout autre. Mon propos était de...
Mais on va l'écouter justement, votre propos, qui est de revenir sur les atrocités de George Eliot.
Les atrocités. Il y a des atrocités, beaucoup, hein, dans le Frankenstein. Il y en a aussi apparemment chez Virginia Woolf et chez George Eliot. C'est Virginia Woolf, la première, dans une chambre à soi, qui parle des atrocités de George Eliot. Alors c'est une formulation pour le moins d'abord surprenante, énigmatique et particulièrement violente. Elle avait déjà été pointée dans un article paru dans la revue Critique en 1981 sous la plume de Jean-Paul Martin. Et ce que je me propose de faire, c'est d'y revenir en élargissant le propos à la fois de Virginia Woolf et de Jean-Paul Martin. Alors l'argument woolfien au départ est d'abord stylistique, presque syntaxique. Selon Woolf, Eliot commettrait des atrocités du point de vue de la phrase, en cherchant tant bien que mal, et plutôt mal que bien d'ailleurs, à se conformer à un modèle de phrase normative, caractéristique des prosateurs et des romanciers du XIXe siècle, tous des hommes. Une phrase d'homme, genrée, proche de la période latine, à manier par des hommes. S'y essayer, pour un écrivain femme, c'est manquer sa cible, c'est violenter la langue anglaise, c'est lui infliger des souffrances atroces. L'objectif poursuivi par Woolf est d'appeler, elle, à l'invention d'une langue propre aux femmes, en rapport avec un corps de femme. Une langue à soi, voilà ce que George Eliot n'aurait pas été capable de proposer. Il est vrai que Woolf se montre souvent ambivalente par rapport à l'auteur de Middlemarch, ne lui reconnaissant de la grandeur qu'à contre-cœur, semble-t-il, et pour des raisons qui sont difficiles à comprendre parfois. Lui emboîtant le pas, Martin met en exergue ce qu'il nomme le pire du style eliotien, à savoir le prélude de Middlemarch. Alors, ce pire est très relatif, me semble-t-il. Il ne me fait pas, à moi, l'effet d'être particulièrement atroce. Il faut ne pas avoir corrigé beaucoup de copies d'étudiants français s'essayant à rédiger en anglais pour être de cet avis-là.
C'est pas tombé dans l'oreille de tous vos étudiants, Marc.
Bon, mais Martin a l'honnêteté de reconnaître que ce serait beaucoup affaiblir l'œuvre d'Eliot que d'en retirer des passages stylistiquement atroces. Sa force, à elle, en serait beaucoup amoindrie. Donnons-lui acte et passons à d'autres motifs d'atrocité, plus en rapport peut-être avec une forme de cruauté, ce qui est après tout le vrai sens d'atroce. Et si Middlemarch, qu'on voit ordinairement comme une toile, Webb, relevait plutôt d'une scène, d'un théâtre, en l'occurrence, un théâtre de la cruauté. Condition bien sûr de s'entendre sur les mots. Pas de sang qui coule, rien de frénétique, pas de corps dépecé chez Eliot, mais un mécanisme intellectuel qui, de manière bien sûr très feutrée, s'apparente au théâtre de la peste imaginé par Antonin Artaud. Ce dernier compte sur le fléau pour exercer son pouvoir de contagion, bouleverser l'ordre moral et social, libérer les passions, la force du mal, et par-delà faire de la vie violente la pierre de touche ultime. Eh bien, Pas de peste dans Middlemarch, mais une épidémie de typhus à l'arrière-plan. Mais un homicide suivi d'un deuxième. Mais une méchanceté sans nom. Mais, en lien avec la passion savante d'Eliot pour la biologie, la science du vivant et donc la science de la mort, une cruauté inhérente à l'intrigue darwinienne du roman, qui brise les héros de la réforme de la médecine, met à nu la volonté de domination au sein du couple et renvoie à l'oubli et au néant les grandes espérances. Eliot renouvelle puissamment le roman victorien en l'accomplissant, en le portant à un point d'achèvement maximal, au nom du réalisme. Elle critique aussi le progressisme postulé par ce roman du XIXe siècle. La traduction en est, la défaite en rase campagne des idéaux, et plus douloureux encore, le renoncement au désir. Vous avez dit atroce?
Non, on n'a pas dit atroce, on dit surtout merci, Marc Poiré, pour cet éclairage sur George Eliot. À très bientôt. Sur la compagnie des œuvres que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes en duplex avec Strasbourg pour écouter Olivier Larizza, spécialiste de Mary Shelley, qui nous parle d'elle, de la manière aussi dont elle a travaillé avec son mari Percy Shelley et également de son grand roman, mais pas l'unique, Frankenstein.
La lassitude finit par succéder à l'agitation dont j'avais auparavant souffert. Et je me précipitais tout habillé sur mon lit, essayant de trouver un instant d'oubli. Mais ce fut en vain. Je dormis, il est vrai, mais d'un sommeil troublé par les rêves les plus terribles. Je croyais voir Elisabeth, dans la fleur de sa santé, passer dans les rues d'Ingolstadt. Délicieusement surpris, je l'embrassais. Mais à mon premier baiser sur ses lèvres, elle revêtait la lividité de la mort. Ses traits paraissaient changés et il me semblait tenir en mes bras le corps de ma mère morte. Un linceul l'enveloppait et je vis les vers du tombeau ramper dans les plis du linceul. Je tressaillis et m'éveillai dans l'horreur. Une sueur froide me couvrait le front, mes dents claquaient, tous mes membres étaient convulsés. C'est alors qu'à la lumière incertaine et jaunâtre de la lune, traversant les persiennes de ma fenêtre, j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit, et ses yeux, s'il est permis de les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvraient, et il marmottait des sons inarticulés en même temps qu'une grimace ridait ses joues. Peut-être parla-t-il, mais je n'entendis rien. L'une de ses mains était tendue, apparemment pour me retenir, mais je m'échappais, me précipitais en bas. Je me réfugiais dans la cour de la maison que j'habitais, et j'y restais tout le reste de la nuit.
Alors qu'est-ce que c'est que ce roman étrange, Olivier Larizza, dont vous dites qu'il ringardise le roman gothique? Est-ce que c'est l'allégorie de quelque chose? Je crois que vous avez écrit un article pour dire que précisément ça n'était pas ce qu'on avait beaucoup dit, une allégorie politique.
Ah, oui. Alors, je réponds tout de suite à votre question. Auparavant, je voulais dire que c'était une très belle lecture saisissante là qu'on vient d'entendre et belle chronique aussi de Marc Poré. Du professeur Marc Poré, je trouve dommage qu'en France, on ne réserve le titre de professeur à l'oral, du moins, et même à l'écrit, que pour la médecine. C'est pas le cas dans les autres pays. Et Marc Poré,
on peut vous appeler docteur aussi. On peut vous appeler docteur Larizza,
si vous voulez. Et le professeur Marc Poré avait publié en 1998 un excellent ouvrage, et je pense qu'il l'avait écrit en un temps record, sur The Buddha of Suburbia, le Bouddha de la banlieue de Hanif Qureshi, que j'avais étudié. J'avais travaillé parce qu'il était au programme des concours et à l'époque, je préparais les concours. Voilà, je ferme la parenthèse. Votre question sur l'allégorie politique, c'est une thèse. Alors, c'est une thèse à laquelle je pourrais vous l'expliquer, mais ce serait pas forcément à moi de vous l'expliquer. C'est plutôt au tenant de cette thèse de l'expliquer.
Oh, vous pouvez la résumer simplement pour dire ce contre quoi vous vous opposez.
Oui, parce que il s'agit, en fait, le roman Frankenstein serait une allégorie politique, une allégorie révolutionnaire au sens politique du terme, de la Révolution française, dans ce que ce bouleversement historique avait de sans précédent et dans l'attitude de d'attraction-répulsion qu'il provoquait vis-à-vis notamment des radicaux anglais.
Parce que à la fois les Anglais pouvaient avoir envie de révolution et en même temps avoir peur de la révolution, c'est ça?
C'est ça, Edmund Burke, qui est l'un des grands penseurs politiques et esthétiques irlandais, qui a d'ailleurs écrit sur le sublime, avait publié ses Reflections on the Revolution in France, dans ce traité où il avait comparé précisément la révolution à un monstre, mais ce trope du monstre, si vous voulez, est assez volatile.
Ça paraît un peu tiré par les cheveux, en effet.
Voilà, c'est pas. J'allais dire pourquoi est-ce que moi je défendrais une thèse à laquelle je n'adhère pas. Alors si vous voulez, je n'ai jamais rien lu de convaincant sur ce sujet. Je n'ai jamais vu de démonstration. Pour moi, il y a trois arguments, si vous voulez, qui reviennent de livre en livre. Et Dieu sait si j'en ai lu sur ce point-là. Le premier argument, c'est l'héritage. Comme effectivement Mary est la fille d'un penseur pré-anarchiste, d'une femme, Mary Wollstonecraft, qui avait des sympathies pour la Révolution française, elle était d'ailleurs sur place à Paris à ce moment-là, eh bien il faudrait qu'elle aussi, si vous voulez, prenne à bras-le-corps ce sujet-là et en fasse une élaboration, élabore si vous voulez une allégorie politique. C'est réduire Mary a une héritière, et précisément dans son attitude de révolte par rapport à son milieu, ça ne colle pas. Le deuxième argument, si vous voulez, c'est un argument de coïncidence. L'histoire de Frankenstein se déroule en 1700 et quelques, on ne sait pas, puisque Mary Shelley élude à dessein les dates. Elle ne les donne pas, elle ne donne aucune date, sinon 1700 quelque chose. Alors on devine, évidemment, on suppose que ça a plutôt lieu vers la fin du siècle. Et comme ça a lieu vers la fin du siècle, on en fait un rapport, si vous voulez, avec la Révolution française, qui évidemment a démarré en 1789. Mais si le roman est un roman dont l'histoire se situe à la fin du siècle, c'est moins pour des raisons, c'est pas pour des raisons politiques, si vous voulez, c'est parce que le roman a besoin d'être à la pointe de la modernité. Or, c'est précisément à la fin du siècle que la science fait des progrès considérables. Volta, par exemple, met au point sa pile électrique en 1800. Les expériences de Galvini, l'italien, sur l'électricité qui fait bouger
on comprend bien que donc vous ne pensez pas que ce soit une allégorie politique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme allégorie finalement?
Je donne juste le troisième argument, j'arrête là-dessus, c'est que comme il y a rien sur la Révolution française dans le roman, mais rien, pas une allusion. Alors, on convoque la psychanalyse et l'on dit la Révolution française brille par son absence. Ça n'est pas possible, ça doit être un symptôme de quelque chose. Ce symptôme, c'est, je vous le donne en mille, le retour du refoulé. Le retour du refoulé. Donc, voilà, c'est... Alors, une allégorie, si vous voulez, ça suppose... Une allégorie, ça suppose une élaboration réfléchie. Et la phase industrieuse, que j'appelle la phase d'écriture, où vraiment le roman s'est allongé, s'est approfondi, s'est amplifié, a grossi, hein, comme le bœuf dans la fable de La Fontaine, justement sur l'incitation de Percy Shelley, c'était lorsque les Shelley sont précisément revenus de Suisse, qu'ils se sont installés à Bath en septembre 1816, et là, jusqu'en mai 1817, Mary a cravaché, si vous voulez, dans la rédaction du roman. Et je pense que ce qu'elle a élaboré, c'est précisément ce qu'elle vivait avec Percy, c'est-à-dire ce phénomène, ce processus de co-création, de coopération. Et c'est ça qu'elle a mis en abîme dans son roman.
Alors c'est très intéressant, au final, finalement,
si
le
vous
monstre...
voulez, pour répondre exactement à votre question, le roman est une allégorie du processus créatif.
Voilà, justement, j'allais justement vous lancer là-dessus. Le monstre, il est avant tout littéraire, en fait, c'est ça que veut montrer, en tout cas selon votre théorie, Mary Shelley.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que... le cinéma hollywoodien a déformé notre image du monstre, en particulier l'incarnation iconique de Boris Karloff, où on voit un monstre qui grogne avec des boulons, un grand front, etc. Et il grogne, c'est un être primaire, primitif. Mais dans le roman, pas du tout. Dans le roman, c'est un être doté d'une intelligence supérieure qui acquiert le langage et la lecture en un temps record par mimétisme. Je ne sais pas si j'ai besoin de raconter, mais donc effectivement, il se planque dans une cabane. Une fois qu'il a été fabriqué, il s'enfuit de l'atelier du laboratoire, si je puis dire, d'Ingolstadt, et il trouve à se réfugier dans une cabane d'un appentis qui jouxte une chaumière où vivent des aristocrates français ruinés qui ont recueilli une réfugiée turque qui s'appelle Safi. Et le père de famille fait à sa fille, il lui fait son, si vous voulez, son éducation. Et grâce, parce que le monstre observe cela à travers un trou, il voit, il apprend par mimétisme le langage et la lecture. Et c'est ensuite, lorsqu'il quitte les De Lacy, cette famille donc d'aristocrates ruinés, il découvre dans la forêt une vieille malle de cuir. Qui contient des livres, des ouvrages. On a là des ouvrages qui comptent, notamment pour Mary. Notamment, on a les vies parallèles de Plutarque. On a aussi le Paradis perdu de Milton, Paradise Lost, qui constitue d'ailleurs l'un des soubassements mythologiques du livre, dont un extrait est cité en exergue. On pourrait peut-être le donner, cet extrait. Mais...
Je suis vraiment désolé d'être obligé de vous couper de nouveau dans votre développement, mais c'est pour que les auditeurs comprennent bien cette idée que, au fond, le dispositif du roman raconte le travail d'élaboration commun entre Mary et Percy Shelley.
Je termine l'explication. Le monstre se forme à travers ses ouvrages, et ses ouvrages viennent enrichir le texte lui-même. Ils viennent grossir, comme des alluvions d'un fleuve, le roman lui-même. Et donc, ils servent de prétexte à l'auteur pour accroître le matériau littéraire, pour le développer. C'est effectivement un monstre qui n'est pas un monstre, qui n'est pas seulement une création scientifique. C'est un monstre qui est fait de livres. C'est un monstre qui parle comme un livre. Quand il s'exprime, il parle, il emploie la langue miltonienne. Il dit... Par exemple, thy à la place de, alors thou à la place de you quand you est sujet, thee à la place de you quand you est complément, etc. C'est-à-dire une langue que Milton utilise, qui est d'ailleurs la langue qu'on le retrouve dans la Bible. Et c'est un monstre qui en vient finalement à incarner, si je puis dire, le roman lui-même. Ce que d'ailleurs Mary reconnaîtra plus tard, en 1831, lorsqu'elle écrira dans sa fameuse introduction. Je souhaite à mon hideuse progéniture d'aller de l'avant et de prospérer. Et l'hideuse progéniture désigne autant le monstre que le roman. OK? Donc il y a un parallèle évident qu'on pourrait évidemment étayer et on n'a pas le temps, je le comprends bien. Or, ce qui se passe, c'est que Percy Shelley, à la fin du processus d'écriture, modifie les dernières pages. Et les dernières pages actent, si vous voulez, le devenir du monstre. Est-ce que vous voulez que je développe ce point ?
Je peux d'abord, si vous voulez bien, vous faire écouter justement la fin du roman.
Ne craignez pas que je devienne l'instrument de nouveaux crimes. Mon œuvre est presque accomplie. Je mourrai. Adieu, je vous quitte. Et avec vous, le dernier homme que ses yeux contempleront jamais. Adieu, Frankenstein. Bientôt le feu de mes mots s'éteindra. Je gravirai triomphalement mon bûcher funéraire et j'exulterai sous la souffrance des flammes. La lumière de ce foyer s'estompera. Mes cendres seront balayées par les vents et se disperseront dans la mer. Mon esprit reposera en paix. Ou s'il pense toujours, caressera certes d'autres réflexions. Adieu. Sur ces mots, il sauta par la fenêtre de la cabine, sur un radeau de glace dérivant à côté du navire. Les vagues l'emportèrent et il se fondit bientôt au loin dans les ténèbres.
Dans cette fin de roman, il est question de Frankenstein. Il ne faut pas oublier que Frankenstein, ça n'est pas le monstre, c'est Victor Frankenstein, qui est lui-même désigné comme un auteur, puisque c'est un auteur de journal. Et c'est toute cette mise en abîme que vous expliquez très bien dans votre article, Olivier Larizza, pour aussi expliquer comment ce roman est une allégorie de la création et de la création littéraire.
Et donc effectivement, à la fin, Percy manifeste son emprise sur le roman de sa femme, qu'il a corrigé, qu'il a édité au sens anglais du terme, hein, c'est-à-dire révisé, étoffé, qu'il a essayé de faire publier, il s'est comporté comme un agent littéraire, etc. Et on vient d'entendre la fin telle qu'elle est imprimée. Ce n'est pas exactement ce que Mary avait écrit. Ce que Mary avait écrit, c'est sur ces mots, il, donc le monstre, sauta par la fenêtre de la cabine sur un radeau de glace flottant à proximité du navire, et alors qu'il quittait le rivage, il fut emporté par les vagues, et bientôt je le perdus de vue au loin, dans les ténèbres. Et Percy a réécrit, les vagues l'emportèrent bientôt, et il se perdit au loin, dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'en fait, Percy ne laisse planer plus aucun doute sur le devenir du monstre. Il objective son anéantissement. Mary, elle avait laissé ouverte la porte à ce qu'éventuellement le monstre survive et peut-être ensuite aille vers d'autres aventures.
Et qu'est-ce que ça nous dit
bientôt,
alors de
je le perdis de vue au loin dans les ténèbres. Vous voyez, cette vision subjective, on ne sait pas si le monstre meurt ou si finalement il survit, etc. Et ce faisant, Percy manifeste son emprise sur le roman de sa femme parce qu'on a vu tout à l'heure, un peu rapidement il est vrai, que le monstre est une métaphore du roman. Donc, en terminant le monstre, si vous voulez, en l'étouffant comme cela, eh bien Percy met son empreinte définitive sur le roman de sa femme, de la même manière qu'il l'a fait à l'épilogue, puisque il a aussi rédigé une préface sans la signer et en l'écrivant comme s'il s'agissait d'elle, comme si c'est elle qui l'écrivait.
On peut, puisqu'il nous reste 50 secondes, simplement signaler comment Percy Shelley, qui était dépressif, tenté par le suicide, a disparu d'une façon un petit peu mystérieuse. C'était en 1822, alors que le couple partait faire du bateau dans le golfe de la Spezia, au large de Viareggio. Vous voulez dire un mot là-dessus pour clore l'émission ?
Pas le couple, c'est lui qui s'est embarqué avec deux comatelots et effectivement, malgré un avis de tempête, il a bravé les flots. Il ne savait pas nager. Il était très attiré par l'eau pour mille raisons, mais il ne savait pas nager. Et son corps s'est échoué sur la plage une dizaine de jours plus tard. C'était en juillet 1822. On admire aussi Mary Shelley pour sa résilience, puisqu'à ce moment-là, elle n'a pas 25 ans. Elle perd son mari et elle a déjà perdu 4 enfants. Mais ce qui est très beau, et pour montrer aussi la dévotion qu'elle a à son égard, c'est qu'à la mort de Mary Shelley en 1851, son fils Percy Florence découvre dans un mouchoir, si vous voulez, ou plutôt dans des pages de poèmes, le cœur de Percy Shelley. Percy qui a été brûlé à même la plage, comme l'exigeait la loi italienne pour éviter les épidémies, pour éviter les microbes, etc. Et son cœur ne s'est pas consumé, probablement parce qu'il était un peu calcifié en raison d'un début de tuberculose. Et Mary, elle, a conservé ce cœur jusqu'à la fin de ses jours.
Et bien c'est sur cette très belle fable qu'on est obligé de se quitter. Merci beaucoup Olivier Larizza. Je rappelle qu'on peut se reporter à votre article Mary Shelley dans la main de son mari. L'ombre de Percy Shelley sur Frankenstein qui figure dans le volume Femme, artiste et écrivaine dans l'ombre des grands hommes aux éditions Classique Garnier.